19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ben, je suis triste et puis surtout, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut priver toute la France d'un spectacle qui fait complètement partie de la culture et du patrimoine de notre pays ?
Les fauves vont quitter la piste aux étoiles. Il n'y aura bientôt plus d'animaux sauvages dans les cirques itinérants.
Les hôpitaux de Marseille sont-ils vraiment au bord de la saturation ? Non, répond l'APHP, il reste des lits disponibles.
Marseille où les bars et restaurants sont pourtant fermés. À Lille où les cafés doivent baisser le rideau à 22h, une manifestation est prévue ce soir, on y sera.
Oui, l'APHM et non pas l'APHP. Sécurité renforcée à Bordeaux sur fond de crise sanitaire, une trentaine de policiers supplémentaires viennent d'arriver.
L'Amérique n'a jamais été aussi fracturée, nous dira Didier François, à quelques heures donc du premier grand débat ce soir entre Trump et Biden. Et puis Roland Garros, ça rame beaucoup hein, côté français ce soir.
La météo avec Anissa, un mercredi ensoleillé et doux pour presque tout le monde.
Oui, sur une grande moitié sud du pays, effectivement, c'est une belle journée qui vous attend demain. Au nord, il fait toujours gris et pluvieux. Les températures grimpent encore demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc la fin d'une époque, celle des cirques de notre enfance, avec leurs dompteurs de tigres et leurs figures acrobatiques à dos d'éléphant.
La ministre de la Transition écologique a tranché. Les animaux sauvages transportés de ville en ville dans des cages, c'est terminé.
Barbara Pompili demande au cirque de se réinventer. Les défenseurs de la cause animale, évidemment, saluent une décision courageuse. Fini l'image sordide de ces fauves en cage sur des parkings de zones industrielles.
Les propriétaires de cirques sont désemparés. Ils assurent que leurs animaux sont bien traités et qu'ils les aiment.
Frédéric Edelstein, notamment, il est directeur du cirque Pinder, lui-même dompteur. Il accueille cette décision, la mort dans l'âme.
Ben, je suis triste et puis surtout, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut priver toute la France d'un spectacle qui fait complètement partie de la culture et du patrimoine de notre pays, à même titre que le Tour de France. Vous avez des familles entières qui viennent voir le Tour de France, qui sont les mêmes qui viennent voir l'arrivée du cirque avec les animaux dans leur ville ou dans leur village. Et on veut interdire tout ça ? Mais on n'a jamais fait de mal aux animaux dans un cirque. J'ai jamais fait de mal à un animal. Mes lions, ils se couchent sur moi. Ils m'aiment, mes lions. Mais le cirque, il est mort sans les animaux. Les gens, ils vont pas. Les enfants, ils sont pas contents. Les enfants, ils veulent voir les lions. Ils veulent voir les animaux exotiques. Ils veulent voir les tigres. Ils veulent voir les éléphants. Le cirque, c'est ça. Moi, on me détruit en me prenant mes animaux. Moi, je veux garder mes animaux. Dès que je peux remettre Pinder sur la route, je vais remettre Pinder sur la route.
Et vous repartirez pas sans vos animaux ?
Mais bien évidemment. Pour moi, le cirque, c'est avec les animaux. C'est pas sans.
Le directeur du cirque Pinder, Frédéric Edelstein, au micro européen de Pierre Herbulot.
C'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Marseille examinait le recours déposé par le président de région contre l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture totale des bars et des restaurants à Aix-en-Provence et à Marseille.
Alors on ne connaîtra a priori pas sa décision avant la fin de la semaine. Marseille, où les autorités médicales ont fait le point aujourd'hui sur la situation, conjointement l'autorité régionale de santé et l'APHM. Et on est loin des messages alarmistes de ces derniers jours.
Situation sous contrôle. Les lits de réanimation sont quasi pleins, c'est vrai, mais il y en a suffisamment pour faire face aux patients Covid et non Covid.
Et le but, Nathalie Chevance, bien sûr, c'est d'arriver à gérer ces deux flux.
Et pour l'instant, l'hôpital y parvient parce que la situation se stabilise depuis quelques jours. 168 patients atteints du Covid sont actuellement pris en charge, dont 46 en réanimation et il reste encore des lits. Alors c'est vrai que 90% de la réanimation hors Covid est aujourd'hui pleine, mais les médecins arrivent en quelque sorte à jongler entre les malades Covid et non Covid. Résultat, seule une dizaine d'opérations non urgentes ont été déprogrammées et aucun transfert de malades dans d'autres régions n'a encore eu lieu. Tout cela grâce à un travail d'anticipation, explique le professeur Rossi, président de la commission médicale de l'APHM.
Ce n'est pas une histoire de panique ou pas de panique. Le système tient parce que les organisations ont été différentes de la première phase. On ouvre des lits de réa supplémentaires pour accueillir des malades Covid, mais aussi pour accueillir des malades non Covid, pour essayer d'éviter les déprogrammations ou les reprogrammation. Donc on gère de manière sereine, il n'y a pas d'affolement. Dans tous les cas, nous on se prépare à toutes les éventualités, il faut être prêt, quoi qu'il arrive.
Alors pour le moment, le nombre de patients en réa pour le Covid ne diminue pas, mais le temps d'hospitalisation, lui, est plus court. Enfin, un autre phénomène donne aussi un peu d'air aux médecins. Il y a beaucoup moins d'admissions aux urgences depuis le renforcement des mesures sanitaires.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1, donc à Marseille. Jean Castex a reçu ce matin les représentants de l'hôtellerie-restauration, très inquiets, bien sûr, après la mise en œuvre des nouvelles restrictions sanitaires. Déçu par cette rencontre, il demande à être reçu par le ministre de la Santé afin que ce dernier justifie ses mesures, chiffres à l'appui.
Oui, le ministre de l'Économie a lui confirmé ce matin le déplafonnement jusqu'à 10 000 euros du fonds de solidarité qui leur est destiné. La filière a également obtenu la prolongation jusqu'au 31 décembre du chômage partiel, indemnisé à 100%.
Partout en France, en tout cas, c'est toujours l'incompréhension qui domine, la colère également.
Lille fait partie des 11 métropoles où les bars doivent fermer désormais à 22h. Et ce soir, une manifestation est prévue à 22h30. Donc juste après cette fermeture, vous êtes en direct, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement. D'ailleurs, les patrons ou les gérants de ces bars de nuit à Lille espèrent mobiliser une partie de leur clientèle, figurez-vous, à la fermeture pour venir grossir les rangs de cette manifestation. Des patrons qui veulent alerter sur les conséquences économiques dramatiques pour leurs établissements de cette fermeture anticipée. Dès hier, d'ailleurs, elle a fait fuir les clients, me disait tout à l'heure une serveuse. Un coup près de 22h qui fait que désormais, l'on perd de l'argent, assure Camille, la gérante du pub au Scotland.
Il n'y a pas de point d'équilibre, en fait. C'est pas rentable. On ouvre à peine. Et là, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, on va fermer de toute façon. Enfin, c'est un petit peu le sentiment qu'on a. Et ce soir, oui, c'est de se faire entendre parce qu'à un moment, il faut être clair dans ses décisions. Soit on nous ferme et on nous donne les moyens de subsister, soit on nous laisse travailler correctement et on reconnaît que c'est pas chez nous. Parce qu'on a l'impression d'être pointés comme des vecteurs de coronavirus. On voudrait aussi qu'on reconnaisse que c'est pas chez nous qu'on contracte le coronavirus.
Alors, ce que disent tous les patrons de bars avec qui j'ai discuté, c'est qu'ils ont effectivement l'impression d'être sanctionnés collectivement pour les dérapages de quelques-uns qui n'ont pas respecté la règle. C'est un peu ce que dit aussi Martine Aubry, la maire de Lille, qui qualifie d'ineptie cette limite de 22h. D'ailleurs, deux élus chargés du commerce et de la vie nocturne viendront manifester leur solidarité ce soir avec les professionnels. Et dans ce quartier à forte concentration étudiante où je me trouve ce soir, eh bien, on s'attend à une multiplication des soirées en appartement avec un respect, vous l'imaginez, tout relatif des gestes barrières.
Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1 dans le quartier de la rue de la Soif. Il paraît que les Lillois reconnaîtront. À Bordeaux, c'était une demande des élus, notamment face à l'insécurité. On en a beaucoup parlé cet été sur Europe 1. Des CRS sont arrivés aujourd'hui en renfort.
Oui, une trentaine de policiers, effectivement, dans un premier temps et pour une durée limitée. Ils viennent tout juste d'arriver, Stéphane Place.
Oui, première patrouille cet après-midi dans le centre de Bordeaux pour ces 34 policiers appartenant à la CRS de Bièvre en région parisienne, des fonctionnaires réclamés par la préfecture comme par la mairie et qui vont donc appuyer leurs collègues locaux confrontés à une explosion de la délinquance depuis des mois ici. Le lieutenant Céline de la CRS 8.
Pour notre mission principale sur Bordeaux, donc ça consiste en renfort pour pallier à la hausse de la criminalité et de la délinquance, notamment dans le centre-ville, de la sécurisation, des contrôles, de la pédagogie.
Bon, là, on a déjà fait le tour du secteur un petit peu. Je viens d'envoyer un véhicule avec le public alerte pour qu'il puisse, au niveau sonore, rappeler que le port du masque est obligatoire sur le secteur.
Satisfait de voir arriver ces renforts pour une première période de 15 jours, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, l'a martelé tout à l'heure pendant le conseil municipal. Il attend de la part de l'État un effort s'inscrivant dans la durée.
On a obtenu pour Bordeaux cette compagnie de CRS jusqu'en novembre et après novembre, elle sera partagée avec la ville de Nantes. Cela reste pour la municipalité une solution insuffisante au regard de la délinquance constatée à Bordeaux. Sachez que la municipalité continuera à demander plus de policiers et notamment plus d'officiers de police judiciaire pour les Bordelais.
De son côté, la mairie bordelaise compte augmenter les effectifs de sa police municipale et annoncer la création d'une brigade canine.
Stéphane Passe, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
On en sait plus également ce soir sur les motivations de l'homme qui a grièvement blessé deux personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi dernier.
Il ne savait pas que le journal satirique avait déménagé. Il avait l'intention d'entrer dans les locaux et d'y mettre le feu avec du white spirit. L'homme avait repéré les lieux. Par ailleurs, il a bien menti sur son âge, 25 ans et non 18, comme il avait affirmé lors de son interpellation.
Oui, il doit être désormais mis en examen dans la soirée, cet assaillant présumé.
Et à propos de terrorisme, une vaste opération a été menée aujourd'hui en France. Elle a conduit à 29 interpellations dans 26 départements. Un coup de filet qui visait un système de cyberfinancement qui aurait profité à des membres d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Syrie.
Europe 1, Julien Bugier.
19h09, on se retrouve dans quelques instants. Roulement de tambour, Trump face à Biden ce soir. Le choc entre les deux candidats à la présidentielle.
À Roland-Garros, en revanche, on ne sort pas les tambours pour l'instant, côté français.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h11, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On part aux États-Unis, l'Amérique, à quelques heures d'un débat qu'on dit crucial.
Et si vous êtes insomniaque et bilingue, ça vaut le coup de tenir jusqu'à 3h du matin. Pour la première fois, Donald Trump et Joe Biden seront face à face à 35 jours de l'élection présidentielle.
Et avant d'en débattre avec nos invités, on en parle avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors on ne sait pas qui va gagner cette élection Didier, mais ce qui est sûr, c'est que le débat de ce soir sera très révélateur des fractures qui divisent les États-Unis.
Oui, et qui n'ont jamais été aussi profondes. Il suffit de jeter d'ailleurs un coup d'œil sur les 6 thèmes retenus par les deux équipes de campagne pour s'en rendre compte. gestion de la crise sanitaire, effondrement de l'économie, tension raciale, nomination des juges à la Cour suprême, modalité du vote par correspondance, et puis bien entendu, bilan présidentiel. Les divergences de vues entre les candidats sont absolument totales sur chacun de ces sujets, et rien ne semble pouvoir les concilier, alors que ces questions sont d'importance vitale pour l'avenir du pays, et on aurait pu espérer qu'elles invitent à la raison l'ensemble des bonnes volontés pour y apporter des réponses pragmatiques plutôt que partisanes. Or, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Plus on se rapproche du scrutin, et plus les positions se durcissent, au point que désormais, ce sont même les règles de l'élection qui ne font plus consensus.
Avec cette suspicion lancée par le président Donald Trump sur l'intégrité du vote par correspondance.
Oui, les deux candidats en débattront ce soir, ainsi d'ailleurs que de la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême en procédure accélérée, alors que le vote électronique a déjà débuté dans certains États, et sachant qu'en dernier recours, ce sont les magistrats de cette instance qui pourraient avoir à se prononcer sur le résultat définitif de l'élection et donc désigner le futur président. Ce sont des sujets graves, car on touche là au fondement même du pacte démocratique sur lequel sont bâtis les États-Unis et au mécanisme qui préserve l'unité de la nation américaine depuis le terrible déchirement de la guerre civile entre le Nord et le Sud.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est évidemment tous les soirs dans le journal de 19h.
En France, la gendarmerie commande 17 voitures de sport à Seat pour équiper ses brigades rapides d'intervention pour courser les méchants. Un modèle spécial équipé d'un moteur essence turbo-compressé. Alors, je n'y connais pas grand-chose.
Pour courser
en voiture.
Les méchants,
ouais,
comme
voilà.
Vous y allez, vous.
Ouais, c'est fait pour ça.
Starkey Hutch, quoi.
Voilà. Mais en tout cas, ce moteur, il affiche, paraît-il, une puissance de 290 chevaux avec un 0-100 km/h en 6 secondes et une vitesse de pointe à 250 km/h.
On en apprend des choses avec vous, Isabelle Millet. 250 km/h, tiens, c'est moins rapide que les services boulets de canon les plus rapides à Roland-Garros. Belle transition, non ? Pas mal, pas mal.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Alors Corinne Boulot nous disait tout à l'heure à 18h que la journée avait mal commencé côté français. On vous retrouve en direct, Axel May, avec une petite éclaircie en ce moment, pas vraiment dans le ciel, mais dans le camp français justement.
Oui, un soleil jaune fluo comme la couleur de son short et de ses chaussures. Quentin Alice, 202e mondial, après avoir perdu la première manche 5-7 face à l'américain Marcos Giron, 96e mondial, a remporté les deux suivantes 6-3, 7-6. Il y a 5 partout dans la quatrième manche. Avant lui, l'autre petit rayon de soleil dans la grisaille française, c'est Fiona Ferro qui s'est qualifiée face à une Britannique, Watson. Actuellement, sur le court central, Gilles Simon, opposé au Canadien Chapovalov, c'est pas évident. Il a perdu le premier set 6-2 et tente de se reprendre dans le deuxième set 3-2 pour Gilles Simon. Mais service à suivre pour le Canadien. Et puis c'est fini pour le numéro 1 mondial chez les juniors, Harold Maillot. Fini pour Hugo Humbert et surtout pour Kristina Mladenovic qui a été victime d'une grosse faute d'arbitrage dont elle ne s'est jamais relevée.
Eh bien, merci beaucoup. Axel May en direct donc de Roland-Garros.
Voilà. Et le service le plus rapide, c'est donc combien, Isabelle Millet ?
263 km/h.
Vous savez tout. Vous êtes... Un collab. Merci Isabelle, à demain.